La MRC de Bécancour est fière de présenter ce balado qui nous amène dans les coulisses du livre « À village découvert » par le conteur Marc-André Fortin. Bonne écoute!
Chaque village a son histoire. Chaque village a quelque chose de légendaire. Des gens plus grands que nature, puis bien des anecdotes à se raconter. Bienvenue dans le balado « À village découvert » avec le conteur Marc-André Fortin.
Le réel et l'irréel, ça se côtoie, puis ça se mélange souvent. Mon arrière-grand-père croyait au loup-garou parce qu'il en avait croisé un, puis tu pouvais pas l'obstiner là-dessus, là. Puis à force de croire au légendaire, il s'invite dans la réalité. Il côtoie notre quotidien. Puis c'est un peu ça, ma job. Inviter le légendaire dans notre train-train, sans crier gare. Lui ouvrir un jour de fenêtre pour nos nuits trop grises. C'est un peu tout ça que j'abordais dans les 4 derniers balados. Comment la couche du surréel vient tellement bien s'appliquer sur notre réel. Mais dans ce balado aussi, on va essayer de comprendre comment fonctionne le processus créatif. Avec mes invités, on va se questionner. On va s'analyser, puis tenter d'en savoir plus sur de quoi c'est qu'on fait pour faire le comment des choses. Ben, c'est ça, hein, Val? Hein, Val? Tu vas pas me laisser tomber pour le dernier épisode?
Ben non, Marc-André, tu sais bien que je vais pas te laisser tomber.
Fiu! Je m'appelle Marc-André Fortin, je suis conteur, de métier, depuis près de 20 ans. Puis aujourd'hui, avec vous, je vais essayer de comprendre mon propre processus créatif et un peu celui des autres. Bienvenue dans l'épisode de comment tu fais pour avoir des idées.
Des fois, t'en écris-tu des histoires? As-tu des commandes des fois qu'il faut que tu écrives quelque chose qui n'est pas juste de l'histoire, qui est de la fiction?
Okay, non, la fiction, j'écris pour moi, là, pour me rappeler des affaires que
les seuls moments où tu gardes silence avec toi-même.
Oui, c'est ça, pour pouvoir m'en rappeler. Là, puis, mais non, j'ai pas écrit pour d'autres là-dedans. Mais là, je suis à ma retraite maintenant, je vais pouvoir le faire. Vous pouvez communiquer avec moi au numéro.
Puis, as-tu questions, commentaires, angoisse? As-tu des choses? Quand tu as lu, as-tu des questions qui sont venues? Toi, y a-tu des affaires que tu as lues, en fait?
Oui.
Puis, t'as fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est-tu vrai ou... Y a-tu des affaires qui t'en reviennent?
Moi, je me suis laissé emporter là-dedans, dans cet univers-là du moitié vrai, moitié ajouté. Moitié vrai, moitié ajouté.
Les paroles sages de René Baudouin, qui prennent vie dans le livre avec Joachim. On en avait déjà jasé avec Arlette Cousture, mais je pense que ça vaut la peine de se rafraîchir la mémoire.
Il est vrai que le Chartier avait cette joyeuse tendance à remplir les vides narratifs et les trous de mémoire avec de la trop grande vérité ou parfois de la douce menterie. Joachim aimait endimancher les histoires. Toutefois, celles-ci étaient toujours basées sur des faits véridiques, sur des traces véritables et vérifiables. Ce gentil conteur funambulisait la ligne qui départage le doute du réel, celle qui œuvre de frontière entre la rumeur et la certitude.
Fait que tu parles du monde concret, puis tu te l'appropries.
Oui, okay. Oui, c'est ça. Tu sais, le frère Dominique, là, lui, à un moment donné, il m'avait dit « Garde, c'est pas compliqué. Prends n'importe quelle histoire, change les noms, change les lieux, ben bonne partout. » Puis dans le fond, tu regardes les histoires du cheval constructeur d'église ou des affaires comme ça, tu as ça dans tous les paroisses, parce qu'il y en a toujours un qui l'a changé à un moment donné, quelque part. Puis je regarde mon grand-père qui, lui, il beurrait plus épais un peu dans ce qu'il nous racontait quand il était au camp de bûcheron ou des affaires comme ça, tu sais, puis... Là, il nous en mettait davantage.
On n'invente pas vraiment des histoires. Ça ne s'invente plus, des nouvelles histoires. Ils ont déjà toutes été écrites. Fait qu'on ramanche, on patente, on prend du vrai qu'on mélange avec un fait historique, puis une anecdote de ma tante chose, puis une vieille blague d'une paternelle. Puis après, pour donner de la couleur, on beurre épais. On en rajoute. Puis on aime ça. Dans mes histoires, quand il neigeait. Il tombait pas des petits flocons. Non, il tombait des bancs de neige. Puis dans le livre, l'histoire des coqs noirs et des coqs blancs de Saint-Pierre-les-Béquets, il y a du véridiquement vrai. puis il y a un peu de beurrage qui dépasse la croûte, là.
Selon les rumeurs encore vivantes, le village de Saint-Pierre-les-Béquets prit 17 ans pour construire son église. Il paraît que 4 églises complètes auraient pu être construites avec les coûts de la main-d'œuvre et de tous les matériaux. Certains ajoutent même que sans les femmes du village, il serait possible que la paroisse soit encore sans église. Les hommes les plus sages, ceux dont les femmes leur racontent encore cette époque, se rappelleront cet événement en affirmant haut et fort. Le coq crie, se tiraille et se chamaille, pendant que la poule pond et gagne ses batailles.
On sait bien, les sages du village s'en met beaucoup plus que le client en demande. Mais c'est un genre d'information qui rajoute. Ça vient des archives ou alors des oui-dire, des candiratons. Mais dans le cas de Francis Desilets, compteur de patrimoine, lui, il débute avec ce que les gens ont à raconter.
Moi, mon processus créatif, c'est de les faire parler le plus possible pour ce qu'ils veulent avoir. Des fois, ils te fournissent même une grille d'analyse dans ce temps-là. Ben, tu prends ce squelette-là, puis tu y vas.
Tu pars là-dedans, ouais.
Ouais. Puis, sinon, ben, c'est comme on disait, c'est d'essayer de trouver quelque chose de la région. Parce que si tu parles, quand tu parles des gens, quand tu parles de moi, là, je suis content que tu parles de moi. Parles de chez nous, quand tu parles, fait qu'on faut aller trouver cette fibre-là. Moi, c'est ce que je trouve important. Que tu peux aller caresser dans le bon sens du poil. Et déjà, là, tu pars gagnant avec quelque chose. Et dans mon cas, ben ça m'a serré dans ma tête longtemps. Puis à un moment donné, quand la date de tombée arrive, ça sort.
C'est ça, le rush de la fin.
Ouais, ben c'est j'ai fait mon éducation au complet comme ça. Là.
J'avoue, je suis de même aussi. Attendre à la dernière minute. Mon cerveau doit sécréter une substance spéciale quelques minutes avant minuit, juste avant que ma tête se transforme en citrouille. Il y a des cerveaux de même, puis oh merci, je suis pas tout seul.
Où tu vas chercher aussi tes idées? T'sais, parce que des fois, tu fais pas juste attendre ton siège, puis t'es-tu très Google dans tes recherches d'idées?
Oui, mais je suis très histoire aussi. Moi, je suis de ceux qui vont piger dans l'histoire. Dans notre cercle d'amis conteurs dont tu fais partie, là, qui travaillons avec la même agence, Aïe Aïe Productions, je l'ai nommé. j'ai un côté moi, qui va puiser un petit peu plus vers l'histoire. Fait que dans mon bagage historique, j'aime ça aller chercher un événement. À un moment donné, j'avais fait un compte d'une menterie de Nouvelle-France, puis je l'avais fait sur les contrebandiers de sel qui étaient envoyés en Nouvelle-France. Il y a eu quelques prisonniers envoyés en Nouvelle-France, là, qui étaient des faux sauniers, qu'on appelait, d'où le nom de famille saunier.
Ouais.
Et en tout cas, j'ai tout fait ça là-dessus, puis c'est la menterie, comment je suis devenu roux, elle partait de ça, de la contrebande de sel qu'il y avait entre la Normandie et la Bretagne en France, la rivière, le fleuve, la Vilaine, la rivière la Vilaine. Fait que je pige souvent dans des affaires de même, je pars d'un fait historique, puis là, hop, je le transforme en conte ou en légende.
Puis, t'as-tu ça des fois, toi, on dirait que c'est, je sais pas si c'est la grâce de Dieu, là, mais on te donne des éléments, puis on dirait que tout s'emboîte naturellement. Puis ça, au départ, ça peut être des éléments disparates. Tu fais juste faire une recherche de plus, puis t'apprends que, ah ben, Colin, ça fonctionne. Hey, ça fonctionne avec ça. Puis on dirait que tout, après ça, s'emboîte, là, comme des poupées gigognes.
Ça m'est arrivé à un moment donné pour la ville de l'Assomption.
OK.
J'ai eu à écrire ça, là. Ils m'ont fourni une coupe d'affaires, là. Puis ça a juste fait... On dirait que je me suis assis, puis... Puis le compte a sorti tout seul, tu sais. Il était très satisfait. Ça... Mais... Oui, ça arrive une épiphanie à ouais, l'Assomption.
À l'Assomption.
Des fois, il y a de la magie. Les choses s'imbriquent par elles-mêmes, une dans l'autre, sans même forcer. C'est même arrivé quand je devais créer l'histoire sur Wolinak, leur patrimoine qui se mélange à nos référents pour donner une belle histoire défilante.
Les Abénakis, réunis tout autour de l'église, virent alors le jeune Waban s'élancer dans le ciel et filer parmi les étoiles. Celui-ci avait eu l'idée de retourner à sa nouvelle famille, la Grande Ours et la Petite Ours. Devenu étoile filante, Waban allait parcourir le ciel en compagnie de sa sœur et de sa mère.
Plusieurs légendes autochtones abénakises. Une église qui a brûlé, l'exergue de Gustave Flaubert.
Nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles.
Nos connaissances en astronomie. Mais voyons donc tout ça, ça se tisse ensemble.
C'était comme un casse-tête dont je trouvais les morceaux éparpillés, mais qui attendait que je les trouve pour se regrouper. Tu cherches une information sur les Abénaki et tu tombes sur comment ils nommaient leur rivière. Et hop, un nouveau morceau de casse-tête qui vient s'imbriquer avec les autres. C'est un peu le même procédé quand on doit inventer des affaires. On pense que c'est tout nouveau, tout beau, mais dans le fond, comme le dit si bien Arlette Couture, dans la démarche, une fois qu'on trouve notre structure, j'imagine aussi de temps en temps que, je ne sais pas si ça arrive là, de ton côté, mais on dirait que tout s'aligne. On voulait mettre des affaires fausses, on dirait que mon affaire fausse vient aligner tout le reste, puis une constellation qui se fait sans qu'on ait rien fait.
Non, mais ton, ton affaire fausse, à un moment donné, elle s'avère. Tu sais, tu dis, ah, ça c'est faux, ça n'a jamais existé, puis oups, là, plus tu fabules, plus ci, plus ça, plus tu te rends compte que oui, ça a existé, peut-être pas dans les mêmes mots, mais ça a existé.
Ça arrive tout le temps. Moi-même, j'invente un personnage de femme veuve dans le passage direct du rencroche, puis de quelqu'un qui, à la fin du spectacle, vient de donner son nom et de comment est mort son mari. Mais moi, dans ma tête, je l'avais inventé, cette madame-là. Arlette aussi a vécu la même chose. Elle nous avait glissé un mot lors de son épisode.
Il y avait un animateur radio qui s'appelait Normand Harvey, qui est décédé, par contre, lui, depuis, je dirais les années, fin des années 80,
okay.
Qui m'a dit « Hey, comment ça se fait que tu as entendu parler de Madame Untel? » J'ai dit « C'est qui, Madame Untel? » Ben, celle qui a accouché dans la neige. « Tu connais une femme qui a accouché dans la neige pour vrai? » Écoute, ça, c'était... C'est pas vrai. J'ai imaginé la pire affaire. Il dit « Mais non, je connais une dame à qui c'est arrivé. » Oh, ben là, je pense que j'ai jamais rien inventé.
Oui, c'est ça. On invente des choses et finalement, c'est arrivé à quelqu'un.
Oui, ça, c'est sûr et certain.
Quand ça arrive, c'est à la fois surprenant, inquiétant, mais bien amusant. Et des fois, t'inventes pas, tu désinventes. Dans une de mes histoires, j'ai un curé braconnier. Je l'invente pas, c'était dans les archives qu'on m'a donné. Mais là, j'osais pas le nommer. Je voulais pas lui nuire, puis que Saint-Pierre le fasse sortir du paradis. Fait que j'ai désinventé son nom, dans le sens que je l'ai pas nommé, volontairement. La preuve.
Le boulanger avait déjà chanté trois fois l'Ave Maria pour faire patienter l'assemblée. Le curé semblait pas se presser pour la messe de l'année. Plusieurs jugèrent bon de sortir de l'église pour aller quérir le curé, mais le presbytère était plongé dans le noir. Certains firent le tour pour tenter d'apercevoir des traces de pas dans la neige, indiquant une direction ou du moins la preuve que le curé était parti.
C'est peut-être bien mieux de même, de pas le nommer, au cas. Pour les curieux, les curieuses, vous ferez vos recherches, allez sur Google. Si cette fois-là, je ne l'ai pas nommé, souvent, je fais juste nommer, juste mentionner, pour lui redonner une place dans l'imaginaire collectif. Dans mon conte de Jules Guérisseur à Deschaillon, je nomme Françoise Lemay, première femme à être capitaine sur le fleuve. Je ne la connaissais pas, je n'avais jamais entendu son nom, puis il me semblait que c'était important de la mentionner. Déjà que les femmes sont invisibles dans l'histoire, je n'allais pas en tasser une dans les miennes. Les femmes sont trop souvent occultées dans l'histoire. L'histoire, celle avec un grand H. Et ça, Val pourrait tellement vous en parler, et ça, longtemps.
Ouais, puis parle-moi pas là-dessus. On n'embarquera pas là-dedans, OK, Marc-André? Hey, parlant de personnages, là, René, il y en avait long à dire là-dessus. Je pense qu'il y avait même une anecdote. Je pense que c'est mieux qu'on retourne à lui avant que je m'emporte, tu sais.
Fait que là, bon, là, je regarde ça, puis là, j'essaie de me dire, ben il faut que je puisse y mettre là-dedans le nom d'un individu. Tu sais, j'aime beaucoup là, ton nom, là, du curé Frédéric Tétrault. Il me semble qu'il y a le nom.
Ça sonne bien, hein?
Ça sonne bien, puis moi qui roule mes airs, tu sais, Frédéric Tétrault, il me semble que je m'accrocher avec ma langue là-dedans. Ça, c'est bon, ça, me semble.
Ça le donne.
Bon, je te remercie. Puis, tu sais, moi, mon arrière-grand-père, c'est Pitreau Normandin, il restait de billets chez Tchal des Pins. Tchal, là.
Dans le rencroche?
Oui. Bon. Juste avant compte, quand tu continues de te trouver dans le rencroche.
Oui.
Bon. Puis là, il me semble que quand on nomme des gens là-dedans, on donne vie à notre histoire. Il me semble que notre histoire, tu sais, si je dis juste, bon, le petit poisson des genoux, mais là, quand je dis le curé Vachon, je viens de le nommer, je viens de lui donner une espèce de réalité. Il me semble que là, on l'imagine mieux dans notre tête, le curé Vachon, que là, le curé, il a dit que... Mais de dire « le curé Vachon a dit que ». Fait que là, il me semble qu'on personnifie davantage nos histoires de cette manière-là.
Je ne sais plus qui disait ça. Il disait « rêver tout seul, c'est beau, mais rêver en collectivité ou nommer les choses non concrètes, c'est déjà le début d'un réel. »
Oui.
Un puis, curé, c'est un curé, mais le curé Vachon, puis tout le monde fait « oui
ouais. ».
Il existe maintenant, là.
Puis le frère Dominique disait, là, quand tu, là, après ça, tu continues à compter, puis là, tu vas en avoir une gang qui vont dire, c'est qui donc? Attends un peu, là, l'es-tu connu, l'es-tu vu, es-tu... Bon, une fois, je comptais au Câble-Madeleine, puis là, je compte l'histoire du diable au danseur. Y a-tu une histoire classique, une légende oui, classique?
Partout,
c'est partout l'histoire, bon. Puis là, je dis, là, la fille Lanouette, là, dans le bas de la côte, de la rue Notre-Dame, là. Puis là... Tout, écoute, il y avait 200 personnes, je pense, dans la salle. Puis là, tout le monde se posait la question pour savoir c'est qui les Lanouettes qui sont dans le bas de la côte. Bon, fait que là, est où la côte de la rue Notre-Dame? Là, tu sais, là, il est en train de localiser tout ça. Je suis sûr là, que tout le monde, là, le Tamster, ça allait vite là, pour essayer de savoir de qui il parle. Puis à la fin, complètement, il y a une belle vieille madame qui est arrivée. Écoute, elle était grosse comme une échalote en robe de cellophane. Elle était toute petite, la madame, une belle vieille, adorable, qui l'a mariée, puis qui me dit... « Qui vous a conté ça, l'histoire de la mademoiselle Lanouette? » Elle dit « Mon père a toujours raconté ça. » J'étais tombé pile poil. Puis tu sais, moi j'avais suivi simplement les affaires du frère Dominique qui dit « Tu prends le nom qui est le plus connu dans ce coin-là, puis tu prends la rue qui est la plus générale, là, si on veut, là, qui pourrait être la rue Fourre-Tout. » Fait que là, la rue de Notre-Dame, c'est sûr. Puis
tous les villages, j'ai ça.
Puis Lanouette, il y en avait des Lanouettes dans ce coin-là. Puis... Fait que, tu sais, tu donnes... Tu mets un visage. Oh mon Dieu, que c'est beau, ça.
C'est beau, ça.
Ça va être le titre du roman, ça. Mettre un visage.
On n'invente rien. On rend juste les choses irréelles plus concrètes, comme une preuve de leur existence. C'est ça pour les inventeurs d'histoire. Mais les créateurs d'événements, comme Frédéric Lelumière, eux, c'est autre chose. Moi, je me demande, sur ton processus créatif, puis toi, c'est pas pour créer des contes, c'est pour créer des événements.
Des événements, oui.
Comment ça fonctionne dans ta tête pour partir de, des fois, une donnée précise, un fait historique précis ou, des fois, une légende, la chasse-galerie, mais comment qu'on pète la patente pour que ça devienne plus grand que quelque chose qui est déjà grand, tu sais? La chasse-galerie, c'est déjà grand. Non, nous, on va péter la patente encore plus grand.
De le rendre concret, premièrement, parce que les gens, de voir quelque chose en vie, en persona, en présentiel... C'est déjà quelque chose pour la plupart du monde. Hein. On voit les choses à travers les feuilles ou à travers une image ou à travers un écran. Là, on le voit en personne. Maintenant, comment on le fait? Moi, j'aime beaucoup un effet de surprise, de créer une surprise pour débalancer le cerveau humain. C'est une affaire de marketing, c'est drôle à dire, mais on crée un déboussolement, puis quand la personne est déstabilisée, il y a une fenêtre d'attention puis d'opportunité qui dure entre 30 et 45 secondes qui fait que tu vas accrocher ton public tout de suite ou pas. Fait que si tu le surprends avec un « Hey, c'est ce qui est arrivé, voici ce qui arrive », puis là, tu le diriges vers ça, tu l'as déstabilisé.
Puis pour déstabiliser, défaire les référents, donner de la surprise, j'aime bien ça, faire ça. Partir par le chemin de droite, bien connu et rassurant, pour finalement bifurquer à gauche, puis se retrouver dans une clairière pleine de lumière. Mais à l'étang des sucres, là, à Sainte-Gertrude, j'étais à Sainte-Gertrude, je l'avais raconté, puis ça parle du lac qui se fait emporter par des oies, tout ça. Puis au départ, j'avais demandé, « Hey, Sainte-Gertrude, il est où votre lac? » Puis là, tout le monde fait, « Ben, il n'y a pas de lac. » »« Oui, oui, il y a eu un lac. Il était où votre lac? » Là, ils sont comme tous débalancés. Puis ils font juste, « Ben, OK, dis-nous-les. » Ils sont déjà captivés. Ils veulent savoir comment ça se fait qu'on n'est pas au courant qu'il y avait un lac. Ou c'est déjà arrivé aussi à un... Je pense que c'était à Victo que je comptais. Je disais, « Hey, Victo, vous rappelez-vous du grand feu de Victoriaville qui a tout rasé? » Puis là, tout le monde faisait « Non, ben, c'est normal, il n'y en a jamais eu. » Mais moi, vous expliquez pourquoi il n'y en a jamais eu. Là, ils sont déjà...
Fait que tu utilises ton punch au début aussi, quelque part. Tu punches dès le début, tu captes l'attention, puis après ça, tu peux les amener où si tu veux.
T'as-tu des questions sur le processus créatif, des fois que... Parce que tu, sais, tu nous vois travailler,
ben oui.
Mais on n'a jamais l'occasion de se parler de ça non plus.
C'est vrai.
Fait que là, je me dis, t'as l'occasion de poser des questions, là.
Ben oui, moi, j'ai l'impression que quand je te lis, je suis toujours obligé d'arrêter dans le milieu de la phrase... Parce que dans le milieu de la phrase, il faut avoir mis quelque chose qui va complètement s'en aller ailleurs. Parce que tu vas expliquer ce que c'est ou tu vas mettre du grandiose, un détail qu'on n'a pas vu venir. Tu sais, tu vas partir ta phrase « Le soleil se coucha sur la lune », mais là, la lune est devenue autre chose qui était autre chose. Puis tes jeux de mots, pour, on dirait que c'est des diversions. Tu sais, on s'en allait là, mais là, ton interprétation de mots ou ton décodage de mots va nous amener ailleurs qu'on n'avait pas vu.
Ben,
Crées-tu de même? Si veux-tu nous déstabiliser dans le milieu d'une phrase, souvent?
Ben ça, tu vois, ben, c'est la première fois que j'écris des contes. T'sais, pour de vrai, tu le sais, c'est dans tous mes contes sont dans ma tête. Là. Moi, j'écris pas les contes que je raconte partout. Je suis en train de produire un spectacle pour cet été. Il est écrit nulle part. Là. Il est juste dans ma tête. Puis au fil du temps, il va se faire. Mais je savais pas que je faisais ce que tu me racontes là à l'oral. Ça oui, parce que je disais toujours, je ne veux pas raconter la chasse-galerie. Tout le monde connaît à la fin. Ou j'ai l'histoire du pont du diable, bon, mais tout le monde attend que ça soit la chèvre ou le chat ou le chien qui traverse le pont, zap, puis c'est le diable qui se ramasse avec cette arme-là. Fait que moi, je me disais, à quoi ça sert de conter une histoire que tout le monde connaît? On va aller ailleurs. Fait que tout le monde pense que je m'en vais à droite, mais rendu à croix de chemin, non, on tourne à gauche, puis le monde fait comme, hein? Puis là, ça, je me dis, c'est une façon aussi de rendre captif à ce que je dis. En tout cas, il y a un intérêt parce qu'ils font comme, ah, OK, c'est cette histoire-là, puis c'est pas ça. Okay, comment ça, c'est pas ça? Là il écoute. Parce que, ben, il va le dire à un moment donné. Non, il dit pas. Comment ça qu'il dit pas? Il s'en va avec ça. Fait que ça, c'est une façon pour moi un peu détournée de garder ton attention. Parce que c'est dur en tant que public qui te regarde. Si c'est pas par le rire, est-ce qu'ils sont encore avec moi? Si je les fais rire, ils ont compris la blague. Je le sais, on est rendu à la même place. Mais sinon, comment je peux savoir qu'ils sont captifs, qu'ils sont là en train de m'écouter? S'il n'y a pas de réaction physique, mais des fois, c'est juste en les emmenant dans un chemin qu'ils ne s'attendaient pas. Fait que j'avais pas remarqué que je faisais ça aussi à l'écrit. En lieu d'une phrase, tu as l'impression que tu t'en vas par là, puis whoop, on s'en va ailleurs, ou ça a amené un jeu de mots qui donne sur une nouvelle piste. Parce que des fois, je fais ça aussi. Par un jeu de mots, ça me donne une nouvelle idée. Parce que quand j'écrivais mes histoires aussi, là, je les écrivais un peu comme quand je raconte dans vie. J'ai pas fait un plan, puis j'ai pris mes phrases. Bon, je vais écrire ça. Bon, moi, m'asseoir, puis je pars. Puis là, je me la raconte, l'histoire. Je l'écris. Puis là, à un moment donné, il y a un jeu de mots qui me fait rire. Ça m'amène une nouvelle idée. Parce que des fois, il y a des contes que je fais, ah oui, ça va commencer de même, puis ça va finir de même. Puis finalement, ça finit pas en tout comme j'avais prévu, parce qu'un jeu de mots est arrivé, parce qu'une nouvelle information est arrivée qui m'amène une nouvelle piste, parce que je m'en vais ailleurs. Puis ça, c'est l'idée de toujours laisser une porte, puis une fenêtre ouverte, à la surprise. Oh, mes merveilleux jeux de mots, mes précieux! Au grand désespoir de mes enfants et de ma blonde.
Hey, je t'ai dit, pas me partir là-dessus.
Hey, mais je sais que tu m'aimes de même, puis si j'en faisais pas, ta vie serait morne, monotone, plate, sans saveur, une vie aspartane.
Hey, une vie de splenda, toi et chose. On dirait que j'en rêve.
Hey! Les jeux de mots, les vieilles blagues de paternelle, les jokes de Gilles Latulippe, les vieux contes traditionnels, les vieilles histoires de grand-mère. Tout ça, ça fait partie de ma manière de créer. J'aime ça jouer avec ces matériaux-là. Mais comme il existe 400 conteurs et conteuses, il y a autant de processus créatifs. Pour Francis, lui, c'est différent. Reprends-tu des fois des vieux gags? Mettons, tu sais, et ton père, toutes nos blagues de paternelle qu'on se faisait raconter, puis nos oncles, des fois, t'es prends-tu pour les mettre? Mais pas juste pour faire la blague, pour que ça devienne quasiment le cœur central de l'histoire?
Plus ou moins. Moi, c'est moins comme ça que je fonctionne. J'essaie de créer autre chose.
Parce que t'avais-tu remarqué que moi, j'avais fait ça, mettons, pour l'étang des sucres? T'as connais l'histoire des oies qui se ramassent sur un lac puis partent avec le lac?
Oui, c'est un conte classique. Là.
Ben, c'est ça. Fait que tu l'utilises de temps en temps. Tu fais, hey, ça font peut-être pas le conte au complet, mais ça fonctionne super bien. Puis c'est du patrimoine à nous.
Mais absolument, ça peut être ça quand on a une commande de partir quelque chose de vaguement connu ou en tout cas de prendre une trame, puis après ça, de l'étirer, ou en tout cas de l'enrober et de créer autour de ça, bien sûr, parce que maintenant, ça te prend quand même un nœud de l'histoire et tout ça. Fait que oui, ça arrive. Quand je crée des mantrées aussi, pour des concours de mantrées,
oui, c'est vrai.
C'est arrivé aussi de... Mais j'essaye de pas trop le faire, ça, mais bon, tu peux prendre un petit bout d'un narratif. J'ai déjà créé une mantrée à partir d'une joke de Leprechaun. Là, puis...
C'est essentiel dans notre milieu de trouver des référents communs, de jouer avec des bases communes. Et des fois, on y va en subtilité, comme j'ai fait avec la petite boutique des Aurores dans le conte de Fortierville.
Aurore flânait dans le village, comme à son habitude, la tête dans les nuages, à suivre, comme eux, les frivolités du vent. Elle sautait par-dessus les flaques d'eau laissées par la pluie de la nuit dernière lorsqu'elle remarqua une boutique qui n'avait jamais attiré son attention auparavant. Chez Philippe Prince, la petite boutique des Aurores, inventeur de tout et de rien. Cognez et entrez, parce que j'ai pas encore inventé de sonnette, affichait l'écriteau au-dessus de la porte.
Je cherchais un nom pour le personnage de la boutique. Et là, ma tête a pensé à Aurore de Walt Disney. Aurore, la belle au bois dormant. Bon. Puis là, celui qui vient lui donner un doux baiser pour la réveiller, il s'appelle le prince Philippe. Ça m'a fait rire de mettre ce petit clin d'œil-là dans mes histoires. Il y a aussi dans les intercomptes avec Joachim et Émilie. Ça, on en avait jasé, Arlette et moi. Dans le livre de contes, il y a les contes, mais ce que j'appelle des intercomptes. Parce que je voulais faire un lien entre tout ça, parce que c'est vraiment des contes disparates, là, des univers aussi bien hétéroclites l'un de l'autre. Puis je me dis, qu'est-ce qui pourrait lier tout ça? Puis je me suis dit, il va y avoir quelqu'un qui va raconter ces histoires-là à quelqu'un d'autre.
Oui, d'accord.
Première idée, c'est que j'ai pris un de mes personnages quand je fais de l'animation historique. Il fallait que j'y trouve un nom historique, et ça fait 20 ans qu'il s'appelle Joachim Crête.
Oh, mon Joachim!
Ouais. Oui.
Mon enfant de carême.
Puis qui vient, pour l'anecdote, là, juste entre nous deux, là, qui vient du secondaire, parce qu'à l'école secondaire, quand il y avait une suppléante qui venait prendre les présences, elle disait « Est-ce que j'ai nommé tout le monde? » Tu avais toujours quelqu'un qui disait dans la classe « Non, moi, madame, vous n'avez pas nommé. C'est quoi votre nom? » Joachim Crête.
C'est
puis,
cute.
Puis des fois, dans la classe, il y avait quatre Joachim. Elle disait « OK, quelqu'un d'autre, quelqu'un avait la main. Moi aussi, quel nom? Joachim Crête. » Fait que la blague est restée dans ma classe. Puis quand j'ai devenu un nom historique, j'ai pris lui. Et c'est lui. Quand je vous disais que j'aimais ça réutiliser des vieilles affaires, c'était écrit dans mon album des finissants en 1994, dans l'ancien millénaire. Pour moi, c'est une manière de faire des ponts, des liens, de boucher des trous narratifs et de semer le doute dans la tête des gens. Pour citer mon alter ego Joachim, va vous dire, mademoiselle Émilie, il m'arrive d'agrémenter les histoires qu'on me raconte. Je suis donc pas menteur, mais agrémenteur. Tout se base sur du concret, du palpable, du fait historique. Mais j'avoue que des fois, quand il manque des bouts, j'en agrémente. C'est comme Francis et moi, on en avait déjà discuté. Dans le fond, conter, raconter, ça part aussi de là. Mettons, là, quelqu'un écouterait et dirait « Hey, j'aimerais ça faire des contes. » L'idée de juste mettre des références, c'est une des grandes clés pour, en tout cas, que ça soit plus intéressant.
C'est une grande clé pour ton public cible. Ton public cible, c'est qui est devant toi. Fait que tu dois aller le chercher déjà. Tu dois l'amener à s'identifier, mais, ou au moins avoir le goût de voyager puis d'embarquer avec toi. Puis ça, c'est une des façons de le faire, en effet. De trouver des référents. Ou au moins de trouver quelque chose qui fait que « Ah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé ça, peut-être. »
Puis toujours le fameux gag, pas un gag, mais tu sais, où est-ce qu'on dit une vérité, un référent que tout le monde a, puis ils font « Ouais, OK, ça, je suis au courant. » Donc, ce qui suit... Tu verrais ça aussi de bord.
Mais.
Planer le doute.
C'est ça. Ça, c'est de semer comme il faut pour dire ben, regarde, j'ai la crédibilité de te raconter ça. Tu continues. C'est-tu vrai ça? C'est-tu pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans?
C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? En autant que ça soit beau, que ça soit intéressant, agréable au tympan ou à la pupille de prunelle de yeux, là, c'est comme vous voulez. Malgré qu'il existe plusieurs procédés, plusieurs façons de faire, de créer, ça reste toujours dans le même et unique but que les gens passent un bon moment. Il y a des petites histoires individuelles puis de la grande histoire collective, mais elles sont toutes des histoires à se partager pour l'infini et plus loin encore. Et pour se les partager, ça prend vous, les écouteux, écouteuses. Alors merci pour vos oreilles, petites, grandes, décollées ou en chou-fleur. Un immense merci aussi à Martha Hayon, dépoussiéreuse de vieux projets sur les tablettes. Merci, Marthe, d'y avoir mis de la croyance, mais aussi de l'énergie. Merci aux quatre invités, Arlette, Frédéric, Francis, René. Sans vous, ben, j'aurais jasé tout seul, puis ça aurait été assurément moins agréable. Merci à la Société acadienne Port-Royal pour l'accès au moulin des Acadiens de Saint-Grégoire, le lieu d'enregistrement et de tournage. C'est le meilleur endroit pour des moulins à parole. Merci à Philippe de Via 95, le Manitou de l'audio. De l'enregistrement à vos tympans, c'est lui l'ébéniste du son. Merci à Dominique Brouillard, créateur de musique, chercheur de son, enrobeur de mélodies pour enjoliver les paroles. Puis finalement, Valérie, qui, outre faire partie de ma vie...
Et ça, ça se remercie pas, ça se félicite.
Ben, merci, Valérie. Elle réalise, prête sa voix, coordonne, produit les narrations, puis me ramène à l'ordre dans le temps et dans les mots. Mon nom est Marc-André Fortin. Si jamais tu l'avais oublié, je suis conteur depuis bientôt 20 ans. Et ce fut un plaisir de vous amener dans mon livre d'histoire, celui de À Village Découvert, conte des municipalités et d'une communauté abénaquise de la MRC Bécancour.
Merci à nos invités, Francis Desilets, Frédéric Lalumière, Arlette Cousture et René Beaudoin. Merci à la Société acadienne Port-Royal de la ville de Bécancour pour son accueil. À Village Découvert, le balado est une production de Via 95 réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bécancour dans le cadre d'une entente de développement culturel. À l'animation, Marc-André Fortin et Valérie Deschamps. Réalisation, adaptation et scénarisation, Valérie Deschamps. Concept et développement du projet, Philippe Saint-Pierre. Images sonores, Dominique Brouillard. Recherche, Sandrine Pelletier. Technicien de production, Justin Savard. Captation, montage et enrobage sonore, Philippe Saint-Pierre. Sur la base de la publication À Village Découvert du conteur Marc-André Fortin et sur une idée originale du comité culturel de la MRC de Bécancour. Ont aussi participé au développement du projet Louis-Martin McCardle et Marie-Claude Tremblay pour Via 95. Marthe Taillon, Isabelle Rouette et Kathleen Brisebois-Gagnon pour la MRC de Bécancour.